lecture ce soir pour prendre trop de temps à partir du deuxième paragraphe, même si nous n'avions peut-être pas tout à fait fini le premier. Donc à partir du verset 15 du chapitre 14 de l'évangile de Jean. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas moi comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici. »
Donc nous continuons notre étude sur ce chapitre 14 de l'évangile de Jean. Nous avons souligné la dernière fois que le Seigneur réunissait ses disciples. C'est un peu les derniers moments d'intimité qu'il a avec eux. La trahison est en cours et bientôt son sacrifice. Et on s'était arrêté sur ce qu'il pouvait y avoir dans les cœurs de ses bien-aimés, des craintes, des choses pas comprises, certains pressentiments, et on voit que le Seigneur met toute son énergie pour rassurer les siens. Dans la fin du chapitre 13, il y a cette expression « petits-enfants ». Petits-enfants. Il veut leur donner de quoi être rassurés, de quoi... Il comprend qu'ils ont toutes les raisons d'avoir des cœurs chargés de craintes et de troubles en fonction de ce qui se passe, mais justement, il aime tellement ses petits-enfants qu'il veut placer dans leur cœur autre chose que la crainte et le trouble. Donc on avait vu que c'était une pensée qui ressortait de ce chapitre, l'énergie que le Seigneur, l'amour qu'il mettait pour rassurer les siens. On avait souligné que c'était un chapitre rempli de consolation. Il leur annonce son départ, mais il veut les rassurer. Il veut les rassurer. Il veut les amener à une relation vivante, et on l'a souligné la dernière fois, avec le Père. Avec le Père. Et finalement, c'est ce qui prédomine dans tout ce chapitre 14, le Seigneur qui amène les siens à être en relation avec le Père. C'est la relation qui ressort finalement de tout ce chapitre, et il veut leur montrer, et il va leur montrer, qu'ainsi en relation avec le Père, eh bien, ils n'ont rien à craindre, qu'ils ont finalement tout. Dans ces expressions « demeure en lui, demeure en moi », on peut juste y voir, c'est parfois des expressions qu'on a du mal un peu à cerner, mais il faut y voir tout simplement, il faut rester simple devant la parole, y voir la relation. Vous êtes en relation avec le Père qui demeure en vous et vous en lui. Et c'est vraiment ce que le Seigneur enseigne là. Il leur parle d'une maison dans laquelle il va préparer la place. Il leur assure qu'il va revenir. Il leur montre qu'il est lui seul le chemin qui les conduit au Père. Donc ils ont ce qu'il faut pour pouvoir aller au Père. Il est la parfaite image du cœur du Père. Donc en le voyant dans ses témoignages et dans ses œuvres, ils sont ainsi amenés au Père. Il y a des expressions sur lesquelles on s'est pas arrêté la dernière fois, mais sur ces choses que les disciples pourront faire plus grandes que le Seigneur. Il les rassure aussi quant à leurs demandes. Ce que vous demanderez sera entendu, sera exaucé. Et puis dans ce chapitre, dans la fin du chapitre qui nous occupe aujourd'hui, il y a des merveilleuses assurances, à savoir le Consolateur, l'Esprit Saint qui va leur être envoyé. Il y a cette expression « je ne vous laisserai pas orphelin ». Un orphelin, c'est quelqu'un qui manque un père, qui donne force et sécurité, ou une mère qui donne tendresse et consolation. Eh bien, il veut ainsi les rassurer, leur dire « vous ne serez pas orphelin, il ne va pas vous manquer la force, la sécurité, la tendresse et la consolation. Vous allez marcher avec ces choses dans vos cœurs ». Il y a cette belle expression, ce beau verset, je vais vous donner ma paix, et pas celle du monde, pas comme le monde qui tente à vous rassurer de diverses manières, mais moi, je vais vous donner ma paix, cette paix qui est profonde et qui est durable. Donc le Seigneur ainsi rassure les siens, il part, mais il leur donne toutes les raisons pour qu'ils soient ainsi réjouis. Il y a cette expression aussi, si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis. Lorsque on prend possession de ce que Christ met à notre disposition, eh bien, on entre dans une joie accomplie, dans une joie profonde. Donc c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Avec quelques frères, on a pensé quand même, comme c'était la pensée du départ, d'essayer de boucler ce chapitre aujourd'hui pour qu'on puisse faire, si le Seigneur l'accorde, une synthèse et que véritablement on puisse emporter chacun ce qui nous est nécessaire pour le chemin. Ce chapitre se termine par « Levons-nous, partons d'ici ». Eh bien, si le Seigneur est parvenu tout à l'heure, nous allons quitter ce lieu, nous allons nous lever et partir de ce local, bien que nous puissions avoir dans nos cœurs, dans nos âmes profondément, ces convictions que le Seigneur, il y a bien longtemps, a placées sur le cœur des siens et qui ce soir, il va encore placer sur nos âmes.
Je dirais juste un mot à propos de ce verset 11. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. C'est évidemment quelque chose de difficile à comprendre dans un sens. Que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Il y a donc une intimité absolue entre le Père et le Fils. Et cela nous est dit au chapitre 10, vous connaissez tous ce verset, chapitre 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, il était Dieu, béni éternellement sur toute chose, comme on le voit dans l'Épître aux Romains, comme on le voit dans les Colossiens et autres. Il est donc Dieu sur toute chose, béni éternellement. Et il est aussi le Fils de l'homme, dont nous parle par exemple les psaumes.
Quand le Seigneur dit au verset 12, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera de plus grandes que celles-ci. On pourrait dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, faire des œuvres plus grandes, et puis est-ce que ce n'est pas une contradiction avec, sur la même page, la page d'après, verset 24 du chapitre 15, verset 24, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a fait. Les œuvres qu'aucun autre n'a faites. Seigneur Jésus était effectivement, par rapport à l'Ancien Testament, ce qu'il a fait, il a fait des choses que personne n'a fait. Par exemple, la multiplication des pains, On sait qu'il y a eu une multiplication des pains dans l'Ancien Testament par un prophète, mais c'était 100 personnes, et puis il y avait un peu plus de pain. Avec le Seigneur, c'est tout de suite un facteur énorme, avec 5000 personnes, pour prendre cet exemple. Mais il y a bien sûr d'autres choses, comme recouvrer la vue des aveugles, ou d'autres miracles qui étaient vraiment des signes incontestables de sa personne. Et là, il dit clairement, si vous ne comprenez pas exactement qui je suis, bien au moins croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Verset 11 à la fin. Et puis alors, comment se fait-il que les disciples, les chrétiens, vont être capables de faire des œuvres même plus grandes? Alors il nous donne la réponse. Il dit, verset 12, il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. C'est peut-être ça la clé. Moi, je monte au ciel, donc en fait, je vais piloter d'en haut et je vais continuer le travail. Vous savez, le premier verset des Actes, c'est « Les choses, je t'ai écrit, Théophile, sur les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner. » Il parlait de l'évangile de Luc. Ça veut dire qu'il a continué après. Vous connaissez un des derniers versets de l'évangile de Marc, c'est que le Seigneur est dans le ciel, il monte et il coopère, et il travaille encore. Et en fait, il a continué à travailler. Et c'est très beau, finalement. Le Seigneur, lui, il a eu 12 disciples, plus parfois 5000, 10 000 personnes qui l'écoutaient, des foules qui se jetaient sur lui. Et enfin, c'est resté en Palestine. Les chrétiens, ils ont couvert la terre entière. L'apôtre Paul, 3 000 convertis un jour, et puis après 5 000. Vous souvenez, par exemple, il y a eu des guérisons en touchant le bord de son vêtement. Dans les Actes, on voit qu'on posait des mouchoirs, ou bien il suffisait que l'ombre de l'apôtre Pierre passe pour qu'il soit guéri. Donc le Seigneur n'a pas de problème à ce que, par sa puissance, par la puissance de son esprit, eh bien, ses serviteurs aient continué son œuvre, parce que c'est lui qui continue. C'est lui qui continue, et effectivement, si vous regardez bien, l'évangélisation de la terre, ça a été fait par les chrétiens, mais le Seigneur pilote du ciel quand il dit « parce que moi je m'en vais au Père ».
On est émerveillé lorsqu'on lit le livre des Actes de voir que 3 000 personnes s'étaient converties en un seul jour, mais peut-être pas tout le monde parmi nous sait-il que de nos jours, il y en a tous les jours beaucoup plus. Tous les jours, beaucoup plus. On évalue à plusieurs dizaines de milliers, entre 20 000 et 40 000 personnes converties par jour. Alors, on ne le sait pas. Donc, bien sûr, notre Seigneur reste le même, puissant, pour agir. J'aimerais attirer l'attention sur un point. On a vu que le premier verset disait « Ne soyez pas troublés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Mais on n'a pas souligné le fait que c'est un homme qui connaît le trouble et qui va encore le connaître. Dans le chapitre 11, Jésus est troublé lors de la résurrection, avant la résurrection de Lazare. Dans le chapitre qui précède, dans le chapitre 13, nous avons au verset 21, « Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit. » Et si nous continuions, eh bien, nous irions à Gethsémané, où nous le rencontrons angoissé. Le mot troublé n'est peut-être pas employé, en agonie, en combat, etc. Comme l'a bien dit le poète, c'est un peu particulier, puisqu'il était question d'être fait pécher sous des yeux trois fois saints. Mais néanmoins, les premiers passages, surtout le premier, ne parlent pas de cela. Donc c'est un homme troublé, qui a été troublé, et qui va être troublé, qui nous dit de ne pas être troublé. Quelle est donc la leçon? Il me semble que nous pouvons tous être troublés. C'est une réaction logique. Et par contre, nous n'avons pas à nous enfermer dans le trouble. Nous devons apporter les choses au Seigneur, nous devons goûter sa paix qu'il nous propose, d'ailleurs dans ce chapitre. Ça me semble être le sens profond, le sens profond. Parce que les disciples eux-mêmes ont bien entendu ce qui leur avait été dit, mais ils n'ont pas mis en pratique, hein, parce que très peu de temps après, tous le laissèrent et s'enfuirent. Maintenant, soyons humbles et reconnaissons que si nous avions été dans les mêmes circonstances, nous aurions été probablement troublés et probablement aussi, nous aurions pris la fuite, y compris peut-être aujourd'hui. Donc, tout cela pour nous rappeler notre humanité et rappeler les ressources divines qui nous sont proposées, cette paix, qui certes surpasse toute connaissance, toute circonstance même, mais qui n'est pas automatique, vous savez, on n'appuie pas sur un bouton, on est parfois troublé, parfois on a peur, mais on peut trouver toujours notre refuge dans le Seigneur.
Un petit mot peut-être nécessaire sur les versets 13 à 14, important. « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Ce sont des absolus. Les gens, dans l'Évangile, on l'a déjà remarqué, ce n'est pas du relatif, c'est de l'absolu. Comme dans ses épîtres aussi. Et ça, ça nous bouscule un peu. Mais en mon nom, c'est comme si c'était moi qui le demandais. Donc ça va très loin. Certains chrétiens, surtout ceux qui recherchent les guérisons à tout prix, ne pensent qu'à la puissance de Dieu. Oui, mais comme tu l'as dit ensuite, Pierre, j'ai bien aimé, nous sommes toujours entre la puissance et la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y a une exception, c'est quand nous prions pour le salut d'une âme. Là, nous n'avons pas besoin de nous demander si c'est la volonté de Dieu, puisqu'il a dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Mais dans bien d'autres cas, nous ne savons pas la volonté de Dieu. Et ceux qui, en se fondant sur ces versets, ne pensent qu'à la puissance de Dieu, un jour ou l'autre, ils seront confrontés aussi à la volonté de Dieu. Et là, ils vont être bousculés. Parce que nous sommes des fois perplexes et bousculés, oui, devant les voies incompréhensibles de la volonté de Dieu. Donc, dans la prière, nous ne doutons pas un instant, nous ne devons pas douter un instant de la toute-puissance de Dieu. C'est vrai. Mais aussi, il faut tenir compte de sa volonté. Et d'ailleurs, dans son épître, Jean le dira, si nous demandons selon sa volonté. Et donc, le Seigneur Jésus continue, et en parlant de l'Esprit, et c'est quand même remarquable et touchant tout à la fois, que si nous avons l'Esprit, c'est la conséquence de la prière du Seigneur Jésus au Père. Mais, ce don de l'Esprit, là, il est conditionnel aussi. Si vous m'aimez, est-ce que ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas donné à n'importe qui, il n'est pas donné à un incroyant, il est donné à un croyant qui aime Jésus. Normalement, c'est ça. Et donc, il va parler longuement de ce consolateur, de ce paraclet, de celui qui parle et qui défend la cause de quelqu'un. Et le Seigneur Jésus allait partir, mais il allait donner l'Esprit. Les croyants ne seraient pas abandonnés, l'Église ne serait pas abandonnée. Elle aurait une personne divine. Le Saint-Esprit ne s'est pas incarné. C'est pour ça que nous ne le voyons pas, comme le Seigneur s'est incarné. Mais il est en nous, il est dans l'Église. Et l'Église, elle est comme cette femme d'autrefois, Rebecca, que cet homme était venu chercher de si loin. Et cette femme belle mais fragile allait entreprendre un très long voyage de Padamaran jusqu'à Hébron, environ 1000 km, et jamais cette femme n'aurait pu arriver vers son époux sans cette compagnie d'Éliezer qui était serviteur du père et du fils. C'est une image merveilleuse. Et donc on a ce service de l'esprit, ce service de l'Éliezer tout le long de la route pour accompagner cette femme vers son époux. Et encore ce soir, nous avons cette compagnie du Saint-Esprit, et en particulier le Seigneur le rappellera plus tard, plus loin, qu'il nous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. On peut résumer rapidement ce ministère de l'Esprit ici, rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Ça, c'est les évangiles, c'est ce que nous faisons ce soir. Il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage de moi. C'est le livre des actes, l'évangélisation, le livre des actes qui n'est pas terminé.
15-26.
Oui, 15-26. Un peu plus loin, 15-13. Quand celui-là sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ce sont les épîtres. Et enfin, fin du 13, il vous annoncera les choses qui doivent arriver. C'est l'Apocalypse, mais d'autres parties prophétiques, comme la deuxième de Pierre, la deuxième aux Thessaloniciens, l'épître de Jude, et certains d'autres versets, comme un Corinthiens 15. Et le tout couronné par celui-là, il prendra des choses qui sont à moi et vous les annoncera, celui-là me glorifiera. Donc c'est ce grand ministère de l'Esprit que nous avons dans ces chapitres et qui est indispensable à l'Église encore aujourd'hui, comme Eliezer était indispensable à Rebecca.
Verset 16, donc, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Consolateur, comme Lucien vient de le dire, c'est un mot riche, il soutient la cause, il vient en aide, il assiste, c'est pas seulement celui qui nous dorlote, c'est aussi celui qui mène son armée. Il soutient, il est à côté, il est avocat. Mais c'est un autre. Ça veut dire que le Seigneur, il était ce premier auprès d'eux. Et puis, voilà, je pars. Mais je vais prier et le Père en envoie un autre. On a vraiment ici la pensée aussi du Saint-Esprit qui est une personne. Donc c'était moi, et puis après c'est un autre qui vient. Il a dit que le monde ne peut pas recevoir, c'est les chrétiens qui le reçoivent, ils ne le voient pas, invisible. Mais l'Esprit souffle où il veut, tu en entends le son. Et le monde peut voir dans le rayonnement des chrétiens, dans le rayonnement de l'Église, il y a quand même un secret, mais c'est un peu le secret de l'Église, c'est le secret des chrétiens, la présence personnelle de Dieu au milieu de l'Église et dans chaque chrétien. Et puis on a dit que c'était des passages de dernière parole, de séparation. Il va partir et il dit, et celui qui vient à ma place, eh bien, il sera avec vous éternellement. Sous-entendu, il n'y aura plus de séparation. Et le problème de la séparation, le problème du deuil, qui bien sûr nous touche tous de très près, Dieu le connaît bien. Et si à la fin de l'Apocalypse, pour définir le ciel, il nous dit juste, Dieu sera avec les hommes, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine. C'est qu'il connaît bien le sujet. Et au moment de parler d'une séparation, il dit, mais celui qui me remplace, celui-là, il ne part plus. Il n'y a plus de séparation. Il sera avec vous éternellement, et il sera en vous. Il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'y aura plus de séparation. Je... Juste toujours sur cette personne de l'Esprit Saint, verset 16, il vous donnera un autre consolateur. En effet, on l'a dit, un autre, donc le Seigneur était ce consolateur, et à l'époque où on pouvait vivre avec le Fils de Dieu parmi les hommes, aujourd'hui, nous qui pensons à cette époque, on pourrait être envieux et se dire c'était un temps magnifique où on pouvait être avec le Seigneur, toucher le Maître, le suivre, écouter son enseignement, profiter de ses soins. Et il n'en est pas ainsi, puisque le chapitre 16, verset 7, nous dit, de la bouche du Seigneur, « Il vous est avantageux que moi je m'en aille. » Alors, on n'y penserait pas, mais le Seigneur lui-même, on n'oserait pas le dire, le Seigneur lui-même nous dit, finalement, vous êtes favorisé. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que l'autre consolateur, voilà, il vous rapportera ce que le Père, il vous dira toutes les choses, il vous enseignera, et il sera avec vous pour toujours. Et voilà le Seigneur qui nous rappelle cela, et je trouve que c'est beau. Il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur, si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà, donc, on est dans un temps où on n'est pas défavorisé par rapport à l'époque où les disciples, mais aussi tous les hommes, avaient le Fils de Dieu sur la terre parmi eux. Donc aujourd'hui, l'Esprit Saint, il fallait venir au temps du Seigneur, il fallait venir à lui. Et tout le monde ne pouvait pas être proche du Seigneur. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que l'Esprit est en nous, en chacun de nous. Donc on n'a pas de problème de proximité. Maintenant, reste à savoir la place qu'on laisse effectivement à l'Esprit en nous.
Oui, c'est ce que je voulais dire, avec un verset peut-être en plus, dans le chapitre 16, qui clôt donc un peu ce discours, ces échanges du Seigneur, ces déclarations, c'est « Le Père lui-même vous aime ». Il était venu pour révéler le Père. Il avait aimé ses disciples. Et maintenant, il se retire. Un autre consolateur va le remplacer, mais nous avons un accès direct au Père qui nous aime. Le Père lui-même vous aime. Encore un mot, Lucien nous a présenté le plan, pour ainsi dire, du Nouveau Testament donné par le Seigneur à Jésus lui-même en quatre parties. Il faut savoir aussi que le plan de l'Ancien Testament nous est donné par le Seigneur lui-même ressuscité aux disciples d'Emmaüs en Luc 24, au verset 44. Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, 1, dans les prophètes, 2, et dans les psaumes, fussent accomplies. Et il faut savoir que de nos jours encore, les Bibles juives contiennent ces trois parties, même sont éditées en trois volumes. Alors si vous faites le total, 3 plus 4 égale 7, et vous avez un plan magnifique composé de 7 parties.
Juste deux mots qui font notre responsabilité. Il y a, je ne sais plus où sont les versets, mais dans les Épîtres, il y a « N'attristez pas le Saint-Esprit, ne l'éteignez pas ». Et certainement que le Saint-Esprit, on a dit tout à l'heure, on ne le voit pas, donc c'est facile peut-être encore plus de l'éteindre, parce que tout à l'heure tu disais Raymond, si on avait été avec le Seigneur Jésus, on aurait vu son visage, et quand on attriste quelqu'un, on s'en rend compte, parce que sur son visage il y a des réactions, et là peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais on peut l'attrister facilement, ou carrément l'éteindre, donc c'est une responsabilité. Où nous devons faire attention à ce que notre chair fait et justement laisser couler, on l'a dit la dernière fois, laisser couler la vie divine en nous pour que justement l'Esprit agisse puissamment.
Juste un mot pour vous parler de trois tests qui sont donnés dans ce chapitre 14 pour nous croyants. Trois tests. Et premier on l'a lu, à commenter, c'est le verset 14. Si vous demandez, si vous demandez, il faut le faire bien sûr, si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Et on a dit évidemment selon la volonté de Dieu, mais il faut le demander. C'est un test, ça, pour nous croyons, un test. Demander à Dieu. Deuxième test, nous le voyons au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est le propre normalement de tout croyant, celui qui a mes commandements, qui a, ça les est approprié, celui qui a mes commandements, moi j'ai souligné ce petit a, très important, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Voilà un test très fort. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il n'est pas dit l'inverse, celui qui ne les garde pas ne m'aime pas. C'est pas vrai. On ne peut pas lire dans le cœur des hommes, des personnes, bien sûr que non. Seul Dieu nous connaît et connaît tous ses enfants, bien sûr. Mais ça, c'est un test pour nous, croyants qui voulons être fidèles et suivre le Seigneur. Je le relis. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements et moi je le relis. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et puis le troisième test au verset 23, Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, encore une fois aimé, hein, n'oublions pas, dans ce deuxième test aussi, pour le troisième aussi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà, c'est un cran de plus, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il n'y a pas longtemps, on parlait de ces chrétiens du 17e siècle, 16e siècle, qui sur le plateau et ailleurs, mais particulièrement ici sur le plateau, ont gardé la parole au péril de leur vie. Et on me disait, oui, quand on pense à Marie Durand, par exemple, qui est restée 38 ans dans cette tour, avec de l'ordre et d'entre les galériens et tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé la parole. Alors, je le relis, ce verset. Donc, si quelqu'un m'aime, évidemment, il faut aimer. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. C'est qui ce nous? C'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit dont il nous parle en ce moment. Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et plus que cela, et nous ferons notre demeure chez lui. Chers amis, chers enfants, chers jeunes, est-ce que vous avez notez cela, appris ces versets par cœur, encore une fois, comme je le disais l'autre fois, et que le Seigneur habite vraiment en vous, et que vous aimez le Seigneur et sa parole. Et alors, donc, le Seigneur vous aimera, bien sûr. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre demeure chez lui.
J'aimerais insister sur deux points. Seigneur, dans ces entretiens, qu'ils soient dans la chambre haute ou en allant vers Gethsémané, parle trois fois de demander en son nom. Nous l'avons dans le chapitre 15 et dans le chapitre 16, chacun pourra le retrouver. Dans les chapitres 15 et 16, c'est le Père qui donne. Ici, c'est le Seigneur qui donne, en rapport avec la prière, bien sûr. Dans ces mêmes chapitres, 14, 15 et 16, il nous est parlé quatre fois du Consolateur, deux fois envoyé par le Père, deux fois envoyé par le Seigneur. Alors se pose une question, plutôt, c'est une réponse. Je demande à Dieu, et il me semble qu'il ne répond pas. Dieu
me dit, le Seigneur me dit, maintenant, le Saint-Esprit est en toi, avec toi, il accompagne, bien sûr. Et je réalise bien souvent que je ne suis que faiblesse vis-à-vis de cela. Il me semble, et je pose cette question, que le fait, en rapport avec la prière et en rapport avec le Saint-Esprit, qui sont parfois difficiles à vivre pour nous, c'est un combat, eh bien nous avons une réponse dans le fait que le Seigneur répète. Répète trois fois pour la prière en mon nom. Je vous le donnerai, le Père vous le donnera. Et répète quatre fois ici, le Consolateur viendra. Il sera en vous. C'est moi qui l'enverrai, c'est le Père qui l'enverra. Ce sont des certitudes. On ne peut pas raisonner avec cela. On ne peut que les prendre dans notre vie, les porter sur notre cœur. Et le faire avec le Seigneur.
Encore un mot sur ces versets, c'est difficile, on ne voudrait pas revenir en arrière, mais puisque tu viens de parler encore en mon nom, simplement ceci, ce n'est pas une formule magique de dire en mon nom. Et il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose et cet aspect-là. Quand on se souvient de la prière de Matthieu 6, que le Seigneur donne à ses disciples, que ton nom soit sanctifié. Voilà la premier élément de cette prière, que ton nom soit sanctifié. Donc le nom du Seigneur n'est pas à prendre en vain. On peut prendre aussi cet exemple d'un ami, qui nous est cher, et puis qui nous dit « Écoute, tu iras de ma part, et puis tu peux citer mon nom. » Et cet ami qui nous est cher, et on va citer son nom, eh bien, quelle responsabilité ? C'est celui qui est le plus cher, et je veux le glorifier, je veux exalter son nom. Que ce nom soit sanctifié. Donc, ce nom, je ne veux pas le prendre en vain. Donc, à dire au nom du Seigneur Jésus, c'est en même temps, mais voilà, il m'a dit de demander ainsi. Et c'est avec confiance qu'à ce moment-là, la prière peut monter. On demande avec foi, quoi que vous demandiez. Puis si vous demandez une chose, vous demandez en mon nom. C'est avec confiance. On a tout remis au Seigneur. Et c'est lui qui nous a dit, mais vous demandez, de ma part. Vous parlez de mon nom. Alors voilà, il faut lui laisser toute la force à cette expression et ne pas prendre ce nom en vain. Le Seigneur le disait dans d'autres expressions de l'Évangile. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Non, on ne prend pas son nom en vain.
On est à mi-parcours, je propose qu'on se lève, qu'on chante la première strophe du 240 en introduction au verset 18.
Oui.
le Seigneur va mourir, on est quelques heures avant. On est dans la nuit, du jeudi soir. Il va mourir. Et verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Je viens à vous. Ce je viens à vous, il a sûrement plusieurs sens. Le premier, c'est peut-être je viens à vous par le Saint-Esprit. Donc vous ne serez pas orphelin. Et à ce titre, je suis encore avec vous. C'est sûrement aussi le je viens à vous parce que je vais ressusciter, vous allez me revoir. Et puis, je viens à vous, c'est mon retour pour bientôt. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Je serai mort, je serai au tombeau. Mais vous me verrez. Et effectivement, après sa résurrection, personne qui n'était pas chrétien, qui n'était pas ses disciples, ne l'a vu. Il n'a été vu que par ceux qui avaient la foi. Il ne s'est montré à personne d'autre. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Il est juste avant sa mort et il nous parle de vie. Il est juste avant sa mort et il nous fait comprendre, encore une fois, la résurrection. Et il nous rappelle... C'était le sujet de l'étude, je pense, il y a 2 ans, 1 Corinthiens 15, que le fondement de la foi chrétienne, c'est la résurrection. C'est parce que moi je vis que vous aussi vous vivrez. Il annonce vraiment sa résurrection. Mais c'est très puissant, ce parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Il est juste avant sa mort et ils tournent leurs yeux vers la vie. Tournent leurs yeux vers la vie. Alors que Thomas avait dit, on l'a cité avant-hier, allons-y et mourrons avec lui. Pierre, trop présomptueux, mais moi je suis prêt à aller à la mort. Et nous savons que des serviteurs du Seigneur, Moïse, Élie, Job, ils avaient eu envie de mourir à un moment. Même l'apôtre Paul. Pour ceux qui, à un moment, doutent et se disent, oh, finalement, il y en a qui nous ont précédés, on ferait bien d'aller avec eux, ça on serait plus vite. Seigneur, il est juste devant sa propre mort et il les invite à la vie. Parce que moi aussi, moi je vis, vous aussi vous vivrez. Seigneur nous invite à la vie.
Et le Seigneur Jésus enchaîne en disant ce verset 20 qui est quand même très important, en ce jour-là, c'est-à-dire dans le jour de l'Esprit, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Donc avant d'avoir reçu l'Esprit, les disciples ne pouvaient pas connaître cela. Moi, je suis en mon Père. Vous allez connaître cela. Cette identification dans mes pensées, dans mon amour, dans mes intentions, dans le vaste projet divin d'amener plusieurs fils à la gloire, nous sommes un. Moi, je suis en mon Père. Deuxième identification, vous en moi. Identification, notre identification devant Dieu. Vous en moi devant le Père, moi en vous devant le monde. Vous êtes identifié avec moi devant le monde. Un mot sur le verset 23 dont on a déjà parlé. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. On dit souvent que l'amour de Dieu est inconditionnel. Agapé, l'amour qui donne. Et voilà qu'ici, il est conditionnel. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Comment ça se fait? Eh bien, un père, il aime tous ses enfants d'une façon inconditionnelle, à l'image du Père Céleste. Mais un enfant obéissant, il l'aime
d'une façon particulière. Il est en communion avec cet enfant. Il peut lui prodiguer l'expression de son amour, tandis que un enfant désobéissant, il l'aime certes, mais il est entravé dans la manifestation de son amour.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce verset 20 l'éclairage qui vous est donné par la prière sacerdotale ou dans la prière sacerdotale lorsque le Seigneur dit à partir du verset 20, or moi je ne fais pas seulement des demandes pour ceci mais aussi
dans le chapitre 17.
Dans le chapitre 17, pardon. Je ne fais pas des demandes pour ceci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux. Et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé. C'est ce que tu as dit, Lucien. Donc, à propos de ce verset, c'est quand même, me semble-t-il, une annonce extraordinaire. Non seulement c'est une famille, puisqu'il y a un père, notre père, mais c'est une famille unie. Il y a une même pensée, un même but, selon ce que le Seigneur veut. C'est peut-être aussi, en complément, donc, quand on lit ce chapitre 17 et les versets que nous avons lus de ce que le Seigneur demande à son Père, c'est le fait que nous avons un même Seigneur chacun, nous avons une même part chacun. Pas plus grand, pas plus petit. C'est le même Seigneur que nous partageons, que nous avons en nous. C'est le même Père que nous partageons et que nous avons en nous.
Je pense que c'est aussi important quand même d'insister sur, Frédéric a souligné que l'Esprit Saint, c'est une personne. La Trinité fonctionne très bien sans nous. La Trinité n'avait pas besoin de nous. Le Père dit au Fils, tu es tout pour moi. Le Fils dit au Père, tu es tout pour moi. Dans un souffle de vie, dans un souffle d'amour. Et Dieu, dans la création, nous a invités, finalement. Nous a invités à participer à ce cercle vertueux, à ce cercle de vie, ce cercle de lumière et ce cercle d'amour. Et finalement, des fois, je pense qu'en arrière-plan, ou on se l'avoue peut-être pas toujours, on se présente le Saint-Esprit comme une puissance à notre disposition. Je pars pour faire ceci, je m'en remets à la puissance du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit pour ceci, pour cela. Mais si le Saint-Esprit est une personne qui vit en moi, une personne divine, c'est moi qui suis à la disposition de cette puissance. C'est pas moi qui ai le contrôle, c'est pas moi, Frédéric a dit, Christ pilote. Donc je m'abandonne et c'est là où la foi intervient. Il est beaucoup question de croire dans ce chapitre. Je m'abandonne avec foi dans cette personne. Le Seigneur lui s'en va et en nous va venir vivre cette personne divine. Et finalement, ce qu'on pourrait analyser dans ces versets, si ceci, il y aura cela, je répondrai, c'est plus des conséquences de la vie de l'Esprit en nous. cette unité, demeurer, être un, c'est subordonné au fait qu'on a choisi de laisser l'esprit de s'inscrire dans ce cercle de vie. Je vais être capable d'aimer parce que j'ai choisi. Et je pense à ce verset d'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un ouvre, j'entre, et je fais ma demeure, et nous souperons avec lui. Donc, je pense que il y a de notre responsabilité de nous laisser, d'ouvrir la porte et de laisser cette puissance avoir toute son autorité en nous. Alors après, on peut parler de grandes choses qui ont lieu, on peut parler de prières exaucées, on peut parler d'un monde qui va voir un témoignage vivant. L'esprit est esprit d'amour, est esprit de vie. Et on va venir ainsi témoigner de cet esprit. Tu as fait allusion, Jean-Philippe, à la prière du Seigneur lorsqu'il enseigne ses disciples à prier. Mais elle commence, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et ça, sans la puissance de l'esprit, sans cet esprit, cette personne divine qui vient en nous, ce n'est pas possible. Et le monde n'a pas les valeurs du royaume céleste. Il n'a pas les mêmes valeurs. Cette humilité, cet amour du prochain, ce ne sont pas des valeurs qu'on trouve dans le monde. C'est pour ça que le monde ne connaît pas. Mais avec cette personne que l'on respecte en nous, c'est Pierre's allusion à triste et éteinte, quand cette personne divine, on choisit d'avoir de l'amour pour elle, on la respecte en nous, et alors il va y avoir des conséquences, et des conséquences qui peuvent aller très loin, et ces versets, on peut les voir aussi sous cet angle-là.
Et donc, l'esprit, il ne travaille pas en dehors de nous ou à notre place, mais il travaille en nous et à travers nous. Donc, ceci, effectivement, est important. Encore un mot sur, je pense, ces paroles intéressantes et qu'on a rappelé sur ces versets. Le Seigneur a dit, voilà, je m'en vais et parce que moi je vis, vous vivrez. Un peu plus tôt, au chapitre 11, il dit, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi ne mourra point jamais, vivra, etc. Donc on a là déjà, on peut penser aussi que c'est à la fois le salut, on a ce salut éternel, cette vie éternelle qui nous est donnée, voilà, et vous aurez, voilà ce que rappelle le Seigneur à cet instant. Et puis alors après, quand on continue la lecture des versets, le verset 23 qui a déjà été évoqué, avec ceci qu'elle quand même, cette fois-ci c'est « Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, notre maison ». Il s'agit, on va vers la maison du Père, mais maintenant, déjà, dès maintenant, vous vous rendez compte, voilà, eh bien, dans vos affections engagées, gardant les commandements du Seigneur, mais alors le Seigneur et son Père viennent à nous et demeurent, et c'est dans notre maison. Donc, autrement dit, cette fois-ci, c'est non pas nous qui montons au ciel, mais c'est le ciel sur la terre. Autrement dit, mes chers disciples, il leur dit, mais voilà, mais vous aurez un consolateur, l'Esprit de Jésus, autrement appelé dans les livres des Actes, et puis mon Père et moi, dans la mesure où vos cœurs seront engagés, dans la mesure où vous ouvrirez la porte lorsque je frappe, dans la mesure où votre amour sera là, eh bien, nous venons chez vous. Pour vous, ça sera comme le ciel sur la terre. Quelle consolation! En fait, c'est une richesse extraordinaire qui nous est là montrée.
Il y a peut-être une dimension qu'on a du mal à mesurer et qui ressort à traverser. Il y a peut-être une dimension qu'on a du mal à mesurer. Souvent, on pense, voilà, mon temple, mon corps est le temple du Saint-Esprit, et puis, voilà, donc, il faut que je fasse attention. Et puis, le Seigneur, il dit, je viens à vous. Et voilà, on fait ce lien, je viens à vous. Le Seigneur vient, et il frappe à la porte.
Est-ce que j'ouvre? C'est la première condition. Est-ce que tout le monde a ouvert ici? Est-ce que quand le Seigneur frappe à la porte, il vient à nous? Est-ce que j'ouvre? Et là, il nous dit, mais si tu ouvres, alors je viens et je souperai avec toi. Alors, est-ce qu'on accueille le Seigneur pour un souper? Pour un moment qu'on passe ensemble de communion? Et puis après, ça s'arrête? Ou alors, est-ce qu'on prend la dimension qui nous est donnée maintenant, ici dans ce chapitre 14? Le Père et moi, nous ferons notre demeure chez toi. Ce n'est pas une question de souper uniquement, ce n'est pas juste un moment, mais c'est quelque chose qui pourrait demeurer éternellement, le Saint-Esprit qui nous a donné. Et puis bon, maintenant, Dieu habite en moi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une dimension. Et alors, dans cette relation de communion permanente, alors, on va pouvoir demander. Et ce qui est très touchant, c'est quand le Seigneur il nous parle de demander en son nom, afin que le Fils, le Père, soit glorifié dans le Fils. Est-ce que dans la dimension de mes demandes, la gloire de Dieu est en perspective? Et alors, ça change tout, bien entendu. Si la gloire de Dieu est dans la perspective de ce que je demande, eh bien, il y a la dimension, la pleine réalisation du Père, du Fils, du Saint-Esprit qui demeure en moi.
Il faut peut-être donner une précision. Bien sûr, nous sommes avant la croix, avant la Pentecôte, avant la descente du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12-13 nous dit que nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Quand une personne se repent et donne sa vie à Jésus-Christ, accepte l'efficace de son sang, Dieu met son sceau sur l'individu. Dans la période de l'Église, le Saint-Esprit fait sa demeure dans l'Église et dans le croyant. Et cela, c'est une habitation. Hein, c'est une habitation. Maintenant, même si on garde l'image de l'habitation, si notre demeure a 5 pièces, et si vous voulez, si on ferme toutes les pièces, bon, ce n'est qu'une image, mais on peut comprendre le sens. Mais l'action du Saint-Esprit dans la vie de tous les jours est plus en relation avec peut-être la plénitude de l'esprit, hein, la plénitude de l'esprit. On voit qu'elle se répète dans le livre des Actes. Laissez le Saint-Esprit libre, et contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, ou enfin, comme il a été dit tout à l'heure, ne pas l'attrister, ne pas l'éteindre. Hein. Mais il faut que nous comprenions bien que notre position en Jésus-Christ, on ne peut pas nous la ravir. Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et la différence avec l'Ancien Testament, où l'Esprit venait et s'en allait, là, le Saint-Esprit, comme sceau, comme baptême, comme onction, reste dans le croyant. Maintenant, sa liberté d'action est une toute autre chose.
On peut réfléchir aussi à ces expressions « garder ses commandements ». Garder mes commandements, garder ma parole. Alors, c'est vrai que commandement, c'est très fort. On se dirait un petit peu dans le Deutéronome, mais non, on est bien dans l'Évangile. Il y a une autorité particulière qui est derrière cette expression « mes commandements ». Et ici, c'est individuel. En 1 Corinthiens 14, ce sera collectif. Si quelqu'un pense être spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai dit est le commandement du Seigneur. Et est-ce qu'on va pouvoir faire en Église, attention, si on va reconnaître l'autorité du Seigneur en Église, si on ne l'a pas reconnu individuellement ici? Et garder ma parole. La parole, c'est l'expression de la pensée, de mes pensées. Ici, c'est individuel.
En Apocalypse 3, c'est collectif. Philadelphie, tu as gardé ma parole. Et on ne va pas pouvoir échapper. C'est la preuve de l'amour pour le Seigneur Jésus. Si on ne reconnaît pas son autorité, si on ne fait pas attention, si une église recule devant l'étude de la première épître aux Corinthiens, en reconnaissant l'autorité de celui qui est derrière, on ne va pas pouvoir dire qu'on l'aime. Ce n'est pas des mots qui vont remplacer la chose.
Surveillant un petit peu l'heure, on peut avancer au verset donc 26 qu'on a déjà commenté tout à l'heure pour avec le plan du Nouveau Testament. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Donc là, on a un peu une aide pour comprendre qu'il a aidé à ce que les évangiles soient écrits et quand même, il a peut-être bien pris des notes, hein, mais quand même, le Saint-Esprit a fait en sorte qu'on ait quatre évangiles aujourd'hui qui sont tellement riches, tellement complémentaires. Et on a vraiment une matière extraordinaire devant nous grâce au ministère du Saint-Esprit. Et donc, les trois autres passages, on les a mentionnés tout à l'heure. Je vous, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, ça a l'air d'être général, c'est la paix. Je vous la laisse, comme si c'était... quelque chose, un peu mon héritage qui est pour vous. D'une certaine manière, il a laissé ses vêtements aux soldats, il a confié sa maman à Jean, son disciple. Son corps, son esprit, il l'a remis à son père. Son corps a été confié aux soins de Nicodème et de Joseph d'Arimathée pour le mettre au tombeau. Et ses disciples, eh bien, ils reçoivent la paix. Certains ont dit qu'ici, c'est peut-être la paix de la conscience, c'est vraiment le fait d'être en paix avec Dieu. Et après, quand il complète en disant « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », ça va peut-être encore un peu plus loin, c'est vraiment cette paix intérieure qu'il avait lui dans sa propre vie et qui pour nous peut-être c'est cette paix du cœur, le fait qu'on n'ait pas seulement la paix par rapport à Dieu, par rapport au jugement, par rapport à nos péchés, la paix de la conscience, plus générale, mais je vous donne ma paix, c'est-à-dire qu'on peut même, si on est troublé, peut même avoir cette paix qui est la sienne, qui vient de son propre cœur.
Nous l'avons remarqué, c'est un chapitre extrêmement riche. Dans le premier paragraphe, deux choses fondamentales sont traitées. Le salut, d'une part, il sera repris au chapitre 15, le salut et la divinité de Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous avons là deux piliers tout à fait fondamentaux qui sont mis en brèche de différentes manières de nos jours. Et entre autres par les témoins de Jéhovah qui ne s'attaquent finalement fondamentalement qu'à ces deux points. Et donc ce sont des sujets extrêmement importants. Le Seigneur fait une synthèse magistrale des choses puisque nous trouvons aussi la prière, nous l'avons vu à la fin du paragraphe précédent. Nous trouvons l'amour, nous trouvons la paix, nous trouvons la communion, la présence de Dieu, nous trouvons la parole sous forme, dans le premier paragraphe, c'est la parole que je vous ai dite, dans le second paragraphe, ce sont ces commandements du Seigneur, et puis tout ce qui nous sera rappelé par l'Esprit Saint, et puis justement l'Esprit Saint qui est là. Et ça nous rappelle cette parole d'Abjé, ma parole et mon esprit demeurent avec vous, ne craignez pas, et hop, nous retournons vers ces premiers, ne soyez pas troublés.
Je pense aussi que ce petit mot « ma », et puis avec la suite du verset, présente la paix du Seigneur finalement en opposition avec la paix que pourrait donner le monde. Parce que qu'est-ce que recherche finalement chaque être humain? C'est d'être tranquille, c'est d'être en paix. Et le petit mot « paix » signifie aussi « un avec ». Donc la recherche d'une unité, de l'absence de conflit. Et on voit dans les mouvements politiques ce désir de rassurer. Et c'est à celui qui va donner le plus d'arguments pour récupérer des électeurs et ainsi dire qu'avec lui ou avec cette personne, il y aura de la sécurité. Et puis il y a un verset aussi qui nous enseigne que viendra un temps, les nations pourront dire paix et sûreté. Donc le monde se plaît aussi, enfin travaille pour rassurer les êtres humains. On récupère des âmes quand on leur donne des garanties. Il y a certains discours dans les banques, on s'aperçoit qu'on veut à tout prix que les gens soient rassurés. Moi, qu'ils soient rassurés. Eh bien, là, il y a la paix du Seigneur. C'est la paix qui va combler tous les manques, tous les vides. Et ça, c'est vraiment une dimension d'une profondeur infinie. Saint Augustin disait qu'en nous, il y avait un vide en forme de Dieu, et bien dans cette paix qu'il donne, il y a le fait d'être comblé de toutes parts. Et c'est pas rien, parce que effectivement il y a des choses qui vont nous ébranler en cheminant, mais il va y avoir dans nos cœurs quelque chose qui pourrait ne pas être atteint. C'est la paix du Christ. Et on a rencontré des âmes qui vivaient cette paix. On peut en parler longtemps, des discours, on peut tous en faire, mais le vivre face aux circonstances. On a rencontré des âmes restées inébranlées devant des circonstances qui nous auraient tous emportés, mais il y avait cette paix vécue dans le fond du cœur. Et c'est aussi un merveilleux don du Seigneur. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et ça, c'est... On a besoin, l'Église a besoin d'hommes, de femmes qui vivent dans le profond de leur être intérieur, cette paix qui dure, cette paix durable. Et c'est aussi un témoignage.
Juste un tout petit mot concernant la paix. Nous connaissons toujours tous très bien ce verset de Philippiens. Là, c'est pas la paix du Seigneur, mais c'est la paix de Dieu. Donc, Philippiens 4, verset 7. Exposez vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors on peut bien penser que cette paix de Dieu, c'est la même que celle du Seigneur.
On peut aussi nous penser et rappeler que le Seigneur n'avait pas besoin de la paix avec Dieu. Nous, il a fallu que la paix soit faite. Mais le Seigneur a marché sur la terre dans une communion parfaite avec son Dieu, manifestant tout ce qui lui était agréable. Et il était dans une paix. Cette paix, il a vécu. Il a montré sur la terre cette paix. Et on peut penser que c'est cette paix qu'il va donner. Ma paix, telle que ce que j'ai vécu moi, lorsque j'étais sur la terre, comme homme, en tant que parfait homme, parfait. Et donc je vous donne ma paix. On peut insister encore sur l'adjectif ou le ma, comment parler du mon père. On a vu que plusieurs fois dans ce chapitre, c'est la maison de mon père, mais De temps en temps, il parlait du Père, le Père, ou lorsqu'il répondait aux questions de Jude et autres. Sur les deux versets que nous avons cités, le 21 et le 24, qui sont bien très importants, si quelqu'un m'aime, et puis mon Père, c'est mon Père qui va venir faire cette demeure. Et il ne dit jamais, nous l'avons remarqué, il ne dit jamais votre Père. Sans doute parce que c'était Marie de Magdala qui devait, après la résurrection, le dire aux disciples. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Il n'a jamais dit là, votre Père. Donc, je ne sais pas, peut-être y a-t-il une autre pensée à ce sujet.
Je pense qu'il fallait que l'œuvre soit accomplie pour qu'on puisse, qu'il puisse dire votre Père. C'était la nécessité.
Oui, l'Esprit n'avait pas encore été donné. On pense à ce beau verset qu'on a dans les Galates. Abba, Père. Et dans les Romains. Abba, Père, mon papa. Et ça, c'est le fruit du travail de l'Esprit en nous.
Et puis il leur dit encore une fois que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Comme s'il ne l'avait pas bien entendu, peut-être, tout au début de ce merveilleux chapitre. Alors il leur répète, encore une fois. Et j'ai toujours beaucoup aimé dans l'évangile de Jean, les répétitions. Notamment quand il dit souvent, en vérité, je vous dis. Répétez. Pas pour rien, pas pour rien. Et là il leur répète, que votre cœur ne soit pas troublé. Nous en avons besoin, n'est-ce pas? Parce que nos cœurs, comme tu le disais Pierre tout à l'heure, peuvent être troublés par beaucoup de choses. Eh bien, que votre cœur ne soit pas troublé, il le leur répète encore une fois, comme pour nous le faire enregistrer d'une manière définitive et qui aura des conséquences, évidemment, dans notre vie.
Verset 28, vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens avant. Il répète là aussi. Et si vous m'aviez aimé, vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père. Car mon Père est plus grand que moi. Il se place ici sûrement dans son côté humble de fils de l'homme sur la terre. Mon Père plus grand que moi au sens, ben, il est dans le ciel et je vais le rejoindre. Je vais retrouver cette gloire que j'avais auprès de lui avant que le temps fût. Et vous auriez dû, il essaye vraiment de les tirer. On voit bien que le risque, c'était la tristesse de cette soirée, de cette nuit qui allait se terminer avec le jardin, avec ces soldats qui venaient le prendre. Donc, et la croix, le lendemain matin, dans la nuit, le lendemain matin à 9h, il les sort de ce deuil-là, il les sort de cette tristesse-là. Il leur dit, mais vous devriez vous réjouir parce qu'en fait, je vais au Père. Et sûrement que ça nous accompagne aussi dans nos deuils. Et maintenant, je vous l'ai dit, 29, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyez. La croix va arriver, la résurrection va arriver, et aussi le moment où je vais vers le Père vraiment, donc l'élévation, l'ascension, parce que quand ça sera arrivé, c'est là que tout démarre, c'est là que la prédication va démarrer, c'est là que ben, vous serez dans l'état où on est nous là, c'est qu'il est parti, ils l'ont vu, ils nous l'ont raconté et nous l'attendons. Donc quand ça va arriver, il faudra bien croire ce jour-là. Je vous le dis à l'avance que j'y vais, effectivement ils vont le voir partir. Et en fait on en est là, ils l'ont vu, ils nous l'ont raconté Et ils l'ont cru, et nous on le croit aussi. Mais on en est là, on attend. C'est vraiment la suite.
Si vous m'aviez aimé, il semble pourtant qu'il l'aime, dormait. N'est-il pas quelque chose, en ce sens que il leur avait parlé plusieurs fois qu'il allait partir, et il n'avait pas, tenu compte. On expose la question.
Il me semble, mais ce n'est qu'un élément. On peut avoir plusieurs raisons pour aimer. Les disciples aimaient le Seigneur parce qu'ils avaient reçu beaucoup, parce qu'ils avaient aussi vu tout le bien que le Seigneur faisait. Mais là, il me semble que le Seigneur dit, eh bien, le véritable motif de votre amour, eh bien, c'est que je vais aller à la croix, mourir, ressusciter et être élevé. C'est pour ça que nous l'aimons, il me semble.
Il y a plusieurs raisons pour aimer, bien sûr. Mais aimer a une signification profonde, c'est vouloir le bien de celui qu'on aime, vouloir son bien, quelque chose qui est bien. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi un commandement absolu, c'est-à-dire que le bien que je me souhaite moi, je le souhaite à l'autre. Donc aimer le Seigneur, c'était vouloir pour les disciples son bien. Et le Seigneur savait, lui, qu'être dans la présence de son Père, c'était un grand bien. C'était un grand bien. Donc, si vous m'aviez souhaité un grand bien, vous me laisseriez partir vers mon Père. Parce que pour moi, ça sera un grand bien. Et peut-être qu'il s'aimait aussi, comme on le fait nous tous, davantage eux-mêmes. Ils voulaient le garder parce qu'ils avaient un bien pour eux, que de l'avoir, que d'avoir sa présence, d'avoir sa puissance, d'avoir son amour. Donc si vous aviez vraiment voulu du bien pour moi, vous me laisseriez partir vers mon Père. Parce que pour moi, c'est un grand bien. C'est touchant, hein? on touche du doigt l'humanité du Seigneur, qui reconnaît que c'est un grand bien pour son cœur que d'être dans la présence de son Père. Et je pense à ce témoignage qu'a rendu la femme du roi Baudouin en Belgique, qui a assisté, et elle a choqué, hein, mais qui a assisté en blanc aux funérailles de son mari. Et quand les journalistes lui ont demandé des comptes sur cette attitude qui avait heurté, elle a répondu: « Mon mari est dans la maison du Père. » Donc par son attitude, elle s'est réjouie, comme le Seigneur dit, ben, « Vous serez réjouis. Il y aurait de la joie dans votre cœur si vous aviez compris en aimant que j'allais vers mon Père et que c'était important pour moi. » Je pense que c'est un élément.
Je cite simplement ce verset 27 du chapitre 16. « Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. »
On a dit que c'était les dernières paroles du Seigneur et il le dit lui-même au verset 30. « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous. » Et les dernières paroles de quelqu'un, on s'en souvient. Car le chef du monde vient et il n'a rien en moi. Voilà une autre déclaration assez fondamentale. Le diable était venu à la tentation, il était parti pour un temps, et là il va revenir. mais il n'a rien en Jésus. Il n'y a pas de point d'attache, il n'y a pas la moindre corruption, il n'y a rien. Il n'y a pas de péché en lui, il n'a pas commis le péché, il n'a pas connu le péché, et le diable n'a rien en lui. Et afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Dans l'évangile de Jean, il est aux commandes. Quand Pilate veut l'amener dehors, c'est lui qui sort. C'est lui qui sort portant sa croix. Quand on vient le prendre, il s'avance et il dit qu'il cherchera. Et là, l'œuvre de la croix, c'est son œuvre. Ainsi, je fais. Il est aux commandes. On ne lui a pas pris sa vie, il l'a donnée. Les Juifs, Pilate, ne pouvaient rien contre lui, c'est lui qui fait.
Juste, permettez-moi de revenir sur ce verset, « Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis ». Alors en effet, c'est le Seigneur qui dit ça, et les disciples auraient pu se réjouir avant, mais il semble quand même que la leçon était bien apprise, parce que on voit ces dernières paroles dans Luc 24, le Seigneur s'en va, verset 50, et il les menace, et le Seigneur les mène dehors jusqu'à Béthanie. En levant ses mains en haut, il les bénit. Et il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux. Il fut élevé dans le ciel, et eux, lui ayant rendu hommage, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, finalement, les disciples ont bien appris la leçon, et ils aiment le Seigneur, et finalement, ils ont aussi entendu « Vous êtes avantageux que je m'en aille ». Ils se réjouissent maintenant. Le Seigneur s'en va. Il s'en va au ciel. Les disciples le regardent s'en allant, et il n'y a pas de tristesse, il y a de la joie.
Afin que le monde connaisse que j'aime le Père. Le monde.